Quelques idées fausses sur les raisons de l'essor des jobs à la con. Commençons par écarter les explications aussi courantes qu'erronées avancées par certains fanatiques du marché. Les adeptes d'Ayn Rand ou de Friedrich Hayek, les libertariens, les anarcho-capitalistes et consorts pullulent sur les forums économiques grand public où ils martèlent qu'une économie de marché, par définition, ne saurait créer des jobs inutiles. Étant donné que leurs arguments sont omniprésents, autant nous en débarrasser tout de suite. Tous ces critiques s'accordent pour admettre que, dans le secteur public, quelques-uns au moins de ceux qui pensent avoir des jobs oiseux sont dans le vrai. Mais ils se divisent ensuite en deux groupes. Le premier soutient que les travailleurs du privé, qui nourrissent de semblables soupçons, se trompent. Puisqu'il est inconcevable que des entreprises soumises à la concurrence paient des employés à ne rien faire, leur job doit avoir une utilité quelconque. Simplement, ils ne la comprennent pas. Quant au second groupe, il reconnaît qu'il existe dans le secteur privé des jobs de gratte-papier vides de sens, et même qu'ils se sont multipliés. Mais il y voit uniquement la conséquence de l'intervention étatique. Un article publié dans The Economist en 2013, à peine 36 heures après la parution de mon papier sur les jobs à la con, offre un parfait exemple des positions du premier groupe. Outre qu'il présente tous les travers d'un travail bâclé, le seul fait qu'un tel bastion de l'orthodoxie libérale ait ressenti le besoin de répondre à mes arguments de façon aussi précipitée montre que la rédaction avait identifié une menace idéologique sérieuse. Voici leur interprétation. Au cours du siècle dernier, l'économie mondiale s'est progressivement complexifiée. Les biens produits sont plus complexes. Les chaînes d'approvisionnement utilisées pour les fabriquer sont plus complexes. Les dispositifs qui permettent de les lancer sur le marché, de les vendre et de les acheminer sont plus complexes. Les moyens de financement de tout ce système sont plus complexes, et ainsi de suite. Cette complexité est ce qui fait notre richesse. Le problème, c'est qu'elle est extrêmement difficile à gérer. J'aimerais pouvoir dire qu'une bonne façon d'y parvenir serait d'avoir des équipes généralistes, des managers artisans qui contrôleraient toute la chaîne de la conception du produit au traitement des réclamations des clients. Mais ce n'est absolument pas réalisable d'un point de vue économique dans le monde d'aujourd'hui. De même que la voiture individuelle bon marché ne se serait jamais démocratisé si les véhicules étaient produits un à un par des équipes de mécaniciens généralistes. Non. Pour faire les choses de manière efficace, il faut fragmenter chaque secteur en un grand nombre de tâches de types différents, ce qui permet d'atteindre un très haut niveau de spécialisation. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec l'équivalent, en employé de bureau, de l'ouvrier qui, toute la journée, fixe la languette A sur le cadre B. C'est celui qui brasse des papiers, gère les menus détails de la chaîne logistique, etc. La décomposition peut donner une impression d'absurdité, car de nombreux travailleurs interviennent à des stades incroyablement éloignés du point final du processus. Les temps où le minerai de fer était livré par une porte, tandis que la voiture finie sortait par une autre, sont révolus. Mais l'idée n'a pas changé. En d'autres termes, l'auteur de cet article prétend que, à travers les jobs à la con, nous ne parlons que de l'équivalent post-industriel des ouvriers à la chaîne, ces personnes dont le sort peu enviable consiste à effectuer les tâches requises par des processus de production de plus en plus compliqués. Des tâches répétitives, ennuyeuses, voire abrutissantes, mais on ne peut plus nécessaires. À l'heure où les robots remplacent les travailleurs d'usine, ces jobs seraient tout ce qui reste. Ceux qui professent une telle attitude ajoutent parfois, avec condescendance, que les gens convaincus d'avoir un job inutile sont juste étouffés par la prétention. Le problème, explique-t-il, c'est que la main-d'œuvre instruite, aujourd'hui, est truffée d'étudiants en philo ou en littérature de la Renaissance qui s'imaginent avoir une noble destinée et qui trouvent que c'est leur faire injure que de leur demander d'être de simples rouages dans la machinerie administrative. Venons-en à la seconde catégorie d'arguments qui pointe du doigt l'intervention de la puissance publique. Inutile que je m'y attarde trop, je suis sûr que le lecteur en a déjà rencontré mille et une variantes. Tous ceux qui croient mordicus dans la magie du marché assurent que les problèmes, les injustices, les absurdités qu'il semble générer sont en réalité causés par les interférences du gouvernement. Évidemment, puisque le marché, c'est la liberté. Or, la liberté, c'est forcément bien. Cela peut paraître caricatural, mais j'ai rencontré des libertariens qui s'expriment presque exactement dans ces termes. Bien entendu, c'est un argument tellement circulaire qu'il en est irréfutable. Puisque toutes les économies de marché du monde incorporent une certaine dose de régulation étatique, il est facile de décréter que leurs aspects plaisants, par exemple l'accroissement de la richesse globale, sont le résultat des mécanismes de marché, alors que les moins sympas, par exemple la multiplication des poches de pauvreté, n'apparaissent que quand l'État met son grain de sel. De plus, naturellement, la charge de la preuve pèse sur ceux qui sont d'un autre avis. Par définition, aucune preuve n'est requise à l'appui d'une profession de foi. Une précision s'impose. Loin de moi l'idée d'affirmer que les réglementations gouvernementales ne jouent aucun rôle dans la création de jobs à la con. Il est bien évident qu'elles en jouent un, en particulier pour la catégorie des cocheurs de cases, et même que des industries tout entières n'existent qu'à cause d'elles, comme celle de la mise en conformité des entreprises. Mais ce qu'affirment les adeptes du marché, c'est que ces réglementations sont la raison principale, voire la seule, de l'essor des jobs à la con. Nous voilà donc face à deux arguments. Le premier, la mondialisation a tellement complexifié les processus de production qu'il faut toujours plus d'employés de bureau pour les gérer. Par conséquent, ce ne sont pas des jobs à la con. Le second, d'accord, il y a beaucoup de jobs à la con dans le tas, mais tout est la faute des réglementations publiques qui, non contentes de produire des bureaucrates inutiles à l'appel, contraignent les entreprises à employer des armées de cocheurs de cases pour les tenir à distance. Ces deux arguments sont aussi faux l'un que l'autre, et un seul exemple permet de les réfuter simultanément, celui des universités privées aux États-Unis. Examinons deux tableaux tirés du livre de Benjamin Ginsberg, The Fall of the Faculty, qui raconte la prise de contrôle administrative des universités américaines. Les données qu'ils contiennent nous disent presque tout ce que nous avons besoin de savoir. Un des tableaux montre la croissance des effectifs d'administrateurs et de leur personnel dans l'ensemble des universités du pays entre 1982 et 2005. Au cours des 30 années étudiées, qui ont vu une montée en flèche des frais d'inscription, le nombre d'enseignements par étudiant est resté à peu près stable. On observe même un fléchissement à la fin de la période. En revanche, le nombre d'administrateurs et surtout de personnel administratif a connu une envolée sans précédent. Je note au passage, ce sera déterminant pour la suite, que cette explosion des effectifs concerne moins les administrateurs eux-mêmes, plus 85%, que le personnel administratif, plus 240%, c'est-à-dire non pas les restaurateurs ou les agents d'entretien, des fonctions largement externalisées au cours de cette période, mais bien les postes administratifs subalternes. Le nombre d'établissements délivrant des diplômes, lui, n'a augmenté que de 50%. Le processus de production, qui désigne sans doute ici les activités d'enseignement, de lecture, d'écriture et de recherche, serait-il devenu tellement compliqué entre 1985 et 2005 qu'il faudrait désormais une petite légion d'employés administratifs pour le gérer? Évidemment, non. Et je peux en témoigner. Je ne dis pas qu'il n'y a eu aucun changement depuis l'époque où je fréquentais la fac dans les années 1980. Les maîtres de conférences n'écrivent plus sur des tableaux noirs, mais se doivent de proposer des présentations PowerPoint. D'autre part, on utilise de plus en plus les blocs de cours, les pages Moodle et les outils de ce genre. Mais tout cela n'est rien à côté de bouleversements tels que, par exemple, la conteneurisation du transport maritime, la généralisation des cadences de production juste à temps d'inspiration japonaise ou la mondialisation des chaînes d'approvisionnement. Pour l'essentiel, les enseignants continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils donnent des cours, dirigent des séminaires, rencontrent les étudiants, notent les devoirs et les examens. Que dire maintenant de ce gouvernement qui aurait la main si lourde? Encore une fois, en un seul tableau, Ginsberg nous offre une splendide réfutation de cette idée. Ce que l'on constate, c'est que le taux d'augmentation des effectifs d'administrateurs et de directeurs dans les établissements privés a été plus du double, plus 135%, de celui des établissements publics, plus 66% entre 1975 et 2005. Il paraît hautement improbable que les réglementations publiques aient créé deux fois plus de postes administratifs dans le secteur privé qu'au sein même de la bureaucratie d'État. En fait, ces chiffres ne peuvent raisonnablement s'expliquer que par le phénomène inverse. Étant responsables devant le public, les universités d'État sont soumises à une pression politique constante pour réduire les coûts et éviter les dépenses inutiles. Cela peut d'ailleurs les conduire à faire des choix étranges. Ainsi, dans beaucoup d'États américains, le poste de fonctionnaire le mieux payé est entraîneur de football ou de basket dans une université publique. Mais au moins, cela limite les aberrations. Comme de voir un doyen fraîchement nommé décider que, compte tenu de son importance, il lui faut 5 ou 6 agents administratifs supplémentaires à son service, en négligeant de réfléchir à ce qu'il pourrait bien leur faire faire. Dans les universités privées, les directeurs n'ont de compte à rendre qu'à leur conseil d'administration, composé généralement de personnes extrêmement fortunées qui sont soit issues du monde de l'entreprise, soit habituées à évoluer dans des environnements façonnés par ses mœurs et ses sensibilités. Autant dire que, à leurs yeux, le comportement d'un tel doyen est tout à fait acceptable. Pour Ginsberg, cet accroissement du nombre d'administrateurs et de leurs prérogatives équivaut à une véritable prise de pouvoir dans les universités, modifiant profondément la conception que nous nous faisons de leur nature et de leur raison d'être. Dans les années 1950 et 1960, les universités comptaient encore parmi les rares institutions européennes à avoir survécu, plus ou moins inchangées, depuis le Moyen Âge. Y régnait notamment le principe médiéval selon lequel les individus chargés d'un certain type de production, qu'il s'agisse de bâtir des édifices en pierre, de fabriquer des gants en cuir ou d'inventer des équations mathématiques, ont le droit d'organiser leurs propres affaires et sont même les seuls qualifiés pour le faire. Au fond, les universités étaient des corporations de métiers dirigées pour et par les savants. On estimait que leur fonction première était de produire du savoir, immédiatement suivi par celle de former de nouvelles générations de chercheurs. À partir du XIXe siècle, elles ont aussi noué avec les gouvernements des accords tacites au terme desquels elles s'engageaient à former les fonctionnaires, puis les bureaucrates d'entreprise, si, en échange, on leur fichait la paix. Or, nous explique Ginsberg, dans les années 1980, les administrateurs ont organisé un coup d'État. Ils ont arraché le contrôle de l'institution des mains du corps enseignant et l'ont orienté vers des buts totalement différents. Désormais, il est courant de voir les grands établissements publier des « documents de vision stratégique » qui évoquent à peine les connaissances et l'enseignement, mais s'étendent longuement sur l'expérience des étudiants, l'excellence de la recherche, c'est-à-dire les subventions reçues, la collaboration avec les entreprises, avec le gouvernement, etc. Rien de tout cela n'est très nouveau pour les personnes familières du monde universitaire. Mais la question demeure. Comment un tel coup de force a-t-il pu se produire? Dans les années 1880 aussi, il devait certainement exister des administrateurs qui auraient été ravis de s'emparer du pouvoir dans leur université et d'embaucher un cortège de sous-fifres. Que s'est-il passé dans l'intervalle, un siècle, qui les a mis en position de le faire. Et en quoi est-ce lié à la multiplication parallèle dans tout le reste de l'économie des postes de directeurs, administrateurs et autres ronds de cuir? Il se trouve que cette période est aussi celle qui a vu l'essor du capitalisme financier. C'est pourquoi il nous faut peut-être nous tourner de nouveau vers le secteur FIRE, finance, assurance, immobilier, pour comprendre les dynamiques économiques plus profondes à l'œuvre. Puisqu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que pensent les économistes, de gérer des chaînes d'approvisionnement mondiales de plus en plus complexes, que font exactement tous ces gras de papier? Ce qui se passe dans ces bureaux est-il révélateur de ce qui se passe ailleurs? Le secteur de la finance, paradigme de la création de jobs à la con. Analyste de contrôle de chaîne globale. Marché financier innovant concerté. Fonctionnalité dynamique distribuée. Ajustement de marge dirigée. Bien sûr, en surface, les mécanismes qui génèrent directement des jobs à la con dans le secteur FIRE sont les mêmes que partout. Nous en avons rencontré quelques-uns en décrivant nos cinq grandes catégories au chapitre 2. Les postes de larbin apparaissent au sein d'une organisation parce que, pour les détenteurs du pouvoir, les subalternes sont des insignes de grandeur. L'embauche de porte-flingue répond à une dynamique de surenchère. Si vos rivaux engagent les services d'un cabinet d'avocats prestigieux, vous devez faire de même. Le besoin de rafistoleur se fait sentir parce qu'on trouve parfois plus compliqué de régler un problème que de gérer ses conséquences. Les cocheurs de cases, dans les grosses structures, permettent la production d'une paperasse, attestant que certaines mesures ont été prises, une certification souvent vue comme plus importante que les mesures elles-mêmes. Quant au poste de petit chef, ils sont le corollaire de diverses formes d'autorité impersonnelle. En admettant qu'une grande organisation repose sur un jeu complexe de forces gravitationnelles qui la tire dans des sens opposés, il est logique qu'il y ait toujours un mouvement dans l'une de ces cinq directions. Mais pourquoi ne voit-on jamais s'exercer des pressions en sens contraire? Pourquoi, alors que les entreprises aiment à se présenter comme rationnelles et efficaces, cette situation n'est pas plus souvent regardée comme un problème? Je crois que tous les salariés du secteur FIRE, qui génèrent, manipulent et détruisent de gigantesques sommes d'argent, constituent un terrain d'étude idéal pour réfléchir à ces questions, d'autant plus que beaucoup d'entre eux ne voient dans le secteur tout entier qu'une vaste arnaque. Évidemment, il existe bien d'autres activités frauduleuses par nature, ou dont l'objectif est de fournir à autrui des moyens de frauder. Ainsi, j'ai reçu de nombreux témoignages de rédacteurs de devoirs universitaires. Que des étudiants ou diplômés malins se proposent d'écrire les dissertations de camarades plus feignants pour se faire un peu d'argent, ce n'est pas nouveau. Mais ces dernières décennies, aux États-Unis en tout cas, c'est devenu une véritable industrie organisée au niveau national et employant des milliers de rédacteurs à plein temps. Selon l'un d'eux, c'est ce qui se produit inévitablement quand le culte des diplômes, le fait que tout job un tant soit peu attractif requiert désormais un diplôme quelconque, rencontre la mentalité d'entreprise. Elliott. J'ai travaillé pour un des Big Four, les quatre gros cabinets d'audit au niveau mondial. Une grande banque nous avait missionnés pour prendre en charge les indemnisations des clients affectés par le scandale des PPI. Comme ma boîte était rémunérée au dossier et que nous, on était payés à l'heure, il faisait exprès de nous former de travers et de nous désorganiser pour que les tâches soient mal exécutées. Les systèmes et procédures étaient constamment révisés pour bouleverser nos habitudes, ce qui garantissait que personne ne fasse jamais le boulot correctement. Résultat, à chaque dossier, il fallait tout réapprendre et de cette façon, les contrats étaient reconduits. Pour mémoire, le scandale des PPI, Payment Protection Insurance, assurance emprunteur, a éclaté au Royaume-Uni en 2006. On a découvert que de nombreuses banques avaient vendu à leurs clients des polices d'assurance qu'ils n'avaient pas demandées et qui se révélaient extrêmement désavantageuses pour eux. Les tribunaux ayant ordonné le remboursement des sommes dans la majorité des cas, toute une nouvelle industrie s'est organisée autour de la gestion des réclamations PPI. Et à en croire Elliott, une partie au moins des boîtes chargées d'administrer ces plaintes traînaient volontairement les pieds afin de siphonner tout ce qu'elles pouvaient sur ces contrats. Elliott. Nos supérieurs étaient forcément au courant, mais ils ne le disaient jamais ouvertement. Parfois, dans un moment de relâchement, l'un d'eux sortait un truc comme « On gagne notre croûte grâce à un tuyau qui fuit. Est-ce qu'on doit le réparer ou le laisser fuir ?» Ou une image du même genre. La banque avait provisionné des sommes colossales pour indemniser les victimes des PPI. Ce type de situation revient souvent dans les récits que j'ai reçus. Certains font état de comportements similaires dans des cabinets d'avocats s'occupant du versement des compensations liées à l'amiante. Dès que de très grosses sommes, plusieurs centaines de millions, sont bloquées en vue d'indemniser une catégorie de personnes, toute une bureaucratie doit se mettre en place pour identifier les plaignants, traiter les plaintes et répartir l'argent. Elle mobilise des milliers d'employés qui n'ont guère d'intérêt à distribuer convenablement le butin, puisque leur paye, au bout du compte, provient de la même manne. Qui voudrait tuer la poule aux œufs d'or ? Elliott raconte quelques-unes des inventions surréalistes de sa boîte, comme d'éparpiller ses bureaux dans plein de villes différentes, en obligeant les salariés à se rendre fréquemment de l'un à l'autre ou de faire imprimer et détruire une demi-douzaine de fois les mêmes documents en menaçant de poursuites quiconque révélerait ses agissements à des personnes extérieures. L'objectif était clairement de pomper le maximum d'argent possible avant qu'il ne soit versé aux plaignants. Plus les employés de base passaient de temps sur les dossiers, plus l'entreprise se remplissait les poches. Cependant, en vertu des dynamiques étudiées au chapitre précédent, l'absurdité même de l'exercice semblait exacerber le stress et les comportements violents. Elliott. Tout cela était d'un cynisme stupéfiant. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'une forme de parasitisme. C'était aussi un boulot extrêmement difficile et stressant. Apparemment, un des volets de leur stratégie consistait à fixer des objectifs intenables et à les relever en permanence. Du coup, il y avait un fort turnover, de nouvelles personnes étaient embauchées sans cesse pour être mal formées à leur tour, le tout, j'imagine, pour fournir à la direction de bonnes raisons de demander au client une prolongation du contrat. C'était démoralisant, évidemment. Aujourd'hui, je fais des ménages, et c'est de loin le boulot le moins débile et le moins aliénant que j'ai jamais eu. David. J'ai l'impression qu'on tient là une toute nouvelle catégorie. Les boulots sciemment torchés. Est-ce que vous pensez que c'est très courant ? Elliott. Si j'en crois des collègues d'autres entreprises, toute l'industrie des PPI est fondée sur ce principe. C'est aussi parce que seules de très grosses boîtes d'audit peuvent décrocher de tels contrats. David. Ok, je vois l'idée. Dans la mesure où il ne s'agit ni plus ni moins que de distribuer un butin, il est logique de créer un maximum de couches parasitaires entre la source et le bénéficiaire. Mais au bout du compte, à qui extorquaient-ils l'argent ? À leurs clients ? Ou bien à qui d'autre ? Elliott. Je ne sais pas exactement qui payait. Peut-être la banque ou alors une compagnie d'assurance qui, dès le départ, avait garanti la banque contre les pertes liées à des activités frauduleuses. Bien sûr, au bout du bout, c'est le consommateur et contribuable qui raque. Tout ce que ces entreprises doivent apprendre à faire, c'est siphonner le fric.